Un cortège emporte Daniela et Marcello vers leur union. Un cortège qui, selon les lois italiennes, devrait être interdit. Une authentique Jeep des troupes de Rommel, escortée par des sidecars du Troisième Reich, ce que le XXe siècle a inventé de plus monstrueux, utilisé pour célébrer l'amour. Ici, famille et amis ne sont pas des fascistes, juste quelques bourgeois venus faire la fête.
La guerre et l'amour, ça va ensemble parfois, non ?
Le fait que ce soit une Jeep du Troisième Reich avec des croix gammées, ça ne vous gêne pas ?
Non.
Ne voyez pas le mal. Vous savez, c'est quelque chose qu'il faut savoir interpréter.
C'est très original. On devrait tous avoir la chance de se marier sur une voiture comme ça.
En Italie, mais aussi en Allemagne, en France, en Suède, en Hongrie, dans presque toute l'Europe, les références au nazisme se banalisent et l'extrême droite nationale populiste reprend du pouvoir. En Suède, pendant que certains groupuscules assassinent, d'autres entrent au Parlement. En Allemagne, ils rêvent de bâtir une société parallèle. En Italie, ils partagent déjà le pouvoir. En Hongrie, ils marchent au pas dans les rues de la capitale. Partout, la droite radicale, confinée aux caves et aux arrières-salles depuis la fin de la guerre, fait un retour en force. Centre-ville de Nice, une marche au flambeau se prépare. Drapeau rouge et noir, ce sont les jeunes du Bloc Identitaire, un mouvement d'extrême droite radicale qui organise la marche. Une marche en l'honneur de Catherine Séguran, la Jeanne d'Arc niçoise qui bouta les Turcs hors de la ville au XVe siècle. Avec l'effritement du Front National, la droite radicale, qui reste très minoritaire en France, a perdu son élément fédérateur. Désormais, elle tente de se restructurer. Le Bloc Identitaire est en passe d'y arriver. Aujourd'hui, ils sont plus de 150 à traverser la ville, sous le contrôle de Philippe Vardon, le patron des identitaires niçois.
Vous pouvez le voir dans le défilé, il y a quand même une énorme majorité de jeunes. Donc voilà, c'est important pour nous de montrer que c'est justement les nouvelles générations qui ont le plus conscience de leur identité et qui sont présents pour honorer notre plus longue tradition.
Philippe Vardon, ancien élève de Sciences Po, condamné à 50 000 euros d'amende, 8 mois de prison avec sursis et 2 ans de privation de droits civiques, pour rédaction de tracts haineux et reconstitution de ligues dissoutes. Le Bloc Identitaire s'est construit sur les cendres d'Unité Radicale, un parti interdit à la suite de l'attentat raté contre Jacques Chirac le 14 juillet 2002. L'auteur du coup de feu contre le président de la République était un sympathisant d'Unité Radicale. Aujourd'hui, ses héritiers marchent au flambeau au cœur de Nice, dans l'indifférence quasi générale.
Comme ça dans les rues et que les gens regardent en trouvant ça super et en trouvant que c'est tellement authentique de la France. Moi, ça me fait penser au Ku Klux Klan. Ça m'inquiète un petit peu.
Vardon et ses copains se sont présentés pour la première fois aux dernières élections municipales. Résultat, près de 5%, un score qui les place juste derrière les grands partis. Aujourd'hui, en guise de discours, Vardon sélectionne les vers les plus virulents d'un poème de l'époque dédié à la Jeanne d'Arc locale.
La voyez-vous saisir l'étendard aboré et fouler sous ses pieds, sanglant et déchiré, l'odieux croissant du prophète. Plonger et replonger au sein de l'étranger, noble femme, ce fer qui venait nous venger et nous sauver de la conquête.
Et pour ceux qui n'ont pas entendu le message, les identitaires se répandent désormais sur le net. À l'aide de militants bénévoles formés aux nouvelles technologies, ils ont fondé leur propre agence de presse.
La vocation à créer des alternatives, à créer des contre-pouvoirs. Effectivement, créer une agence de presse dans un monde de communication, dans un monde de l'Internet, où tout le monde peut avoir aujourd'hui immédiatement accès aux informations s'il veut bien les sonner à peine de les chercher. C'est effectivement important, je pense, d'avoir une agence de presse alternative comme Novo Presse.
un site moderne à l'apparence classique presque professionnelle. Mais sur le fond, les articles enchaînent les allusions racistes et xénophobes. Ici, tout est fait pour brouiller les pistes et visiblement ça marche. Le site enregistre plus de 100 000 visiteurs par mois. Fort de ce succès, le lancement d'une radio locale et d'un quotidien niçois sont prévus pour bientôt. Mais pour faire passer ces idées, nous découvrons que le bloc identitaire a mis au point une autre stratégie. Une méthode bien plus sournoise, l'infiltration politique. Pendant la manif, à l'aide d'une caméra cachée, nous avons suivi André, un militant de la première heure. Il est au cœur de cette stratégie d'infiltration souhaitée par l'extrême droite. André est devenu une taupe au sein de l'UMP.
C'était sur la liste du maire, mais je n'ai pas été
maire. C'est quoi, c'était un village ou...
Non, c'est calme. Tu fais de l'imposture, tu la fais grosse et tu la fais pas. C'est pas le faire dans un village de 300 mecs, c'est pas drôle, quoi. Les francs-maçons, ils ont tout infiltré, puis une fois que t'as tout, ouais, avec tes idées. Puis. Je pense qu'on prendra pas par la force, je pense qu'on prendra par en étant une pute comme ils sont les juifs, les gauchistes, les francs-maçons. Si on n'en peut pas cette méthode, on n'y arrivera plus.
Joint par téléphone, le maire de Cannes, Bernard Brochand, n'a pas souhaité réagir.
Ça va bien ?
Oui, vous ?
Ça va, tranquillement, on reprend.
Au quotidien, Vardon et ses copains jouent aux politiciens bon teint. Tractage, meeting, activités sociales, mais surtout, ils s'internationalisent. Pour son meeting de rentrée, Vardon reçoit un soutien de poids, Mario Borghezio, un des pontes de la Ligue du Nord, le grand parti populiste italien. Avec 3 millions d'électeurs, il est la troisième force politique dans son pays.
Je n'ai pas peur de mettre dans la couverture de notre revue la croix celtique, parce que ce sont les symboles de notre tradition. Quelqu'un me dit que c'est un symbole fasciste, naziste, je m'en fous. C'est pas vrai.
Mario Borghezio, ancien sous-secrétaire d'État italien à la justice et député européen. Il a été condamné à 400 euros d'amende pour violence sur vendeurs clandestins et à 2 mois et 20 jours de prison pour incendie d'un abri de SDF étrangers. Dans l'Europe de l'extrême droite, Borghezio est un modèle. Lui et son parti incarnent la preuve que le néofascisme peut retrouver sa place sur le vieux continent. Sur les 21 ministres de l'actuel gouvernement Berlusconi, 4 sont de la Ligue du Nord, le parti de M. Borghezio.
Il faut libérer nos gens. Il faut retrouver l'engagement, la force, l'enthousiasme de gagner les batailles. On commence dans le petit et on arrive. On arrive là où nous devons arriver. Parce que nous sommes une race de commandeurs, nous ne sommes pas serfs, nous sommes patrons, nous sommes maîtres chez nous. C'est notre lutte, c'est notre devoir. Maîtres chez nous, liberté. Lisa Rebella, ribellati.
Après avoir chauffé la salle, Borghezio va maintenant donner ses conseils aux militants. Habituellement, aucun journaliste ne devrait entendre ce qui va se dire. Mais là, notre caméra tournait.
Il faut entrer dans les petites administrations, les petits pays, etc. Il faut mettre beaucoup sur cet aspect identitaire, les journalistes, les gens de votre
mouvement. Les journalistes, c'est plus facile pour les Italiens que pour nous.
C'est une bonne manière de n'être pas immédiatement classé comme fasciste nostalgique, mais comme une nouvelle mouvance, très régionale, ma bière, etc. Et dessous, nous sommes toujours les mêmes, non ?
Donc, c'est ça.
Pénétrez partout où vous le pouvez et mentez pour faire oublier que vous êtes des fascistes. La caméra est repérée, on n'en apprendra pas plus. Nous poursuivons notre enquête dans le pays où les groupuscules à l'idéologie néo-nazie sont le mieux structurés, la Suède. Ici, on trouve plus de 30 groupuscules ultra-radicaux, politiquement organisés. Le plus connu d'entre eux, le NSF, National Socialistic Front. Il réunit des jeunes de 16 à 30 ans qui défendent ouvertement l'idée d'une race blanche supérieure, le White Power.
Les partis établis se fichent des conséquences de leur trahison envers le peuple suédois.
Il y aura des sévices terribles, comme des viols collectifs, des braquages, des meurtres contre les Suédois commis par ces étrangers. C'est le futur de vos enfants qui est en jeu. Car avec le gouvernement actuel, la Suède n'a pas d'avenir.
Aujourd'hui, ces organisations néo-nazies se multiplient dans le pays. D'après les autorités suédoises, 17 nouveaux groupes se sont créés ces deux dernières années. Derrière ces adolescents rebelles et leurs meetings à l'apparence folklorique, se cachent en réalité des jeunes très violents. Les journaux regorgent de leurs crimes de haine, comme celui d'un kurde sauvagement attaqué à coups de couteau, ou le meurtre d'un handicapé. Deux sympathisants nazis d'un groupuscule appelé le SMR ont filmé la torture qu'ils ont infligée à cet homme de 55 ans avant de le tuer. Nourris au combat de rue et à l'ultra-violence, les militants néo-nazis scellent leur appartenance à leur groupe par des serments. Comme pour des sectes, il est très difficile d'en sortir. Seb en paye le prix aujourd'hui. Ses anciens camarades ont lancé un avis de recherche contre lui depuis qu'il a décidé de tout laisser tomber.
Attention au traître. Il faut couper tous les contacts avec lui, le dénoncer et le traiter comme le traître qu'il est.
Les menaces de représailles sont à peine voilées. Seb vit aujourd'hui caché, coupé du monde. Même la police ignore ce qu'il est devenu. Nous avons retrouvé un autre repenti, Stefan Lunkonen. Cet ancien chef régional du NSF a fini par accepter de nous parler. Depuis qu'il a quitté le NSF il y a un an, il a été plusieurs fois tabassé par ses anciens amis.
J'ai peur aujourd'hui. J'ai peur qu'après m'avoir tabassé, ils aillent plus loin, qu'ils s'en prennent à ma femme et à mon fils.
C'est à l'âge de 13 ans que Stéphane a rejoint pour la première fois un groupe néo-nazi. Entraîné par des copains, poussé par la violence, à l'époque, il s'est senti fort.
Je lisais des livres qui expliquaient pourquoi il ne fallait pas aimer les juifs et les sionistes et le système démocratique qui les représentait. Et je regardais des images que je trouvais cool de bagarres entre flics et nazis. C'était ce qui m'attirait beaucoup à ce moment-là. Même si pendant longtemps, mon cœur battait pour ce style de vie nazi. Au bout d'un moment, je ne pouvais plus assumer nos histoires de pureté et de biologie raciale.
Parmi ces groupuscules de la haine, il y en a un qui a fait sa mue. Né en 88 de la fusion de plusieurs groupes radicaux, dont certains avaient collaboré avec le Troisième Reich, le SD, le Parti des démocrates suédois, n'a cessé depuis de nettoyer son image. Plus propre, ils ont même été jusqu'à transformer leur logo. La flamme, symbole traditionnel de l'extrême droite, a été remplacée par une fleur bleue. Une stratégie payante. Aujourd'hui, dans certaines villes, le SD dépasse les 20% et il compte des représentants dans la moitié des conseils municipaux du pays, du jamais vu depuis la fin de la guerre. Et cela pourrait empirer, avec 18% de sa population d'origine étrangère, la Suède est le pays d'Europe qui accueille le plus grand nombre d'immigrés. Un argument de taille pour l'extrême droite. Depuis 1995, le magazine Expo traque sans cesse l'extrême droite suédoise. Créé par Stieg Larsson, pilier de l'antifascisme européen et auteur du best-seller Millennium. À sa mort, Daniel Poul a repris le flambeau. Il écrit actuellement un livre sur l'ESD.
Au niveau des dirigeants du parti, il n'y a plus aucun contact avec les néo-nazis, car les leaders du SD n'ont pas intérêt à avoir de lien avec eux. Il n'en va pas de même pour les militants de base. Pour eux, la différence est minime entre le SD et les néo-nazis.
Malgré l'effort de ses dirigeants, le SD entretient concrètement des liens avec cette base radicale. Expo a mené l'enquête.
Le dernier exemple de lien que nous avons pu démontrer entre le SD et les néo-nazis est celui de 6 élus locaux du SD que nous avons identifiés et qui sponsorisent des groupes nazis violents.
En 2007, Goran Lagrots, élu municipal, a donné à 21 reprises de l'argent au SMR, le groupuscule le plus violent du pays. Jan Kasberg, élu local, a versé à 2 reprises de l'argent aux responsables d'un site néo-nazi. Karin Svensson, élue régionale, a donné du matériel à NSF pour réaliser leurs tracts et livres de propagande. Pour l'instant, le montant des versements reste secret et ses élus refusent de répondre à la presse. Aujourd'hui, les Suédois s'inquiètent et la mobilisation s'organise. Pour empêcher l'ESD de répandre son message, des contre-manifestations ultra-bruyantes se mettent en place un peu partout. Pourtant, Mathias Carlsson, responsable local du ESD, est serein. Les derniers sondages montrent que son parti entrera au Parlement dès les prochaines élections.
Notre objectif immédiat, c'est d'entrer au Parlement et ce, dès les prochaines élections en 2010. Mais à moyen et long terme, notre but, c'est bien sûr de changer la politique et la société suédoise. Nous voulons revenir au passé. Cette société fonctionnait beaucoup mieux dans les années 50, 60 et 70.
Pour le moment, les Suédois refusent de donner les clés du pays au SD. Mais combien de temps tiendront-ils face à l'irrésistible montée de Carlsson et de ses amis ? Si en Suède, la droite traditionnelle refuse les alliances avec l'extrême droite, en Italie, elle participe déjà au pouvoir. Vérone, dans le nord de l'Italie, la ville de Roméo et Juliette est aujourd'hui l'un des fiefs de la Ligue du Nord, un parti xénophobe, raciste et populiste. Flavio Tosi a remporté la mairie avec 62% des voix.
Les Véronais demandent que leur ville soit en ordre, qu'elle soit propre, sûre et qu'elle soit administrée en faisant attention aux vrais problèmes de la population. C'est ce qui a été fait depuis mon arrivée.
Ces mesures phares, militariser la ville et placer des interdits à tout va, entre autres contre la prostitution, les immigrés clandestins ou les SDF. Sa grande fierté, avoir chassé les Roms de la ville à coups de pelleteuse. Dans sa municipalité, Flavio Tosi entretient des liens étroits avec les fascistes. Son principal conseiller, Andrea Migliorandi, est un ancien skinhead. On les voit ici en décembre 2007 à la tête d'un défilé organisé par les groupes fascistes. Ils protestent contre les magistrats locaux qui, selon eux, s'en prennent de manière injuste à l'extrême droite. Graziano Perini, conseiller municipal de l'opposition de gauche, s'inquiète de cette dérive.
Tosi est fier de ce qu'il est en train de faire. Sa ville est le laboratoire politique de la nouvelle droite qui s'infiltre dans toute l'Italie. Cette expérience que Tosi a nouée avec l'extrême droite est en train de se consolider au niveau national avec le gouvernement Berlusconi.
En effet, depuis le 13 avril 2008, pour sa troisième victoire, Silvio Berlusconi a noué des alliances jamais osées jusqu'ici. Désormais, il collabore avec la petite fille du Duce, Alexandra Mussolini, et d'autres figures infréquentables du néofascisme italien. 6 d'entre elles sont d'ailleurs rentrées au Parlement, parmi lesquelles 2 anciens membres du mouvement ultra-radical, Terza Posizione. Mais Berlusconi va plus loin. Il minimise la répression politique sous le régime fasciste.
Mussolini n'a jamais tué personne. Il s'est contenté d'envoyer des gens en vacances.
En Italie, le tabou du fascisme est tombé. Dorénavant, lors des meetings, certains militants n'hésitent plus à acclamer Berlusconi comme le Duce. Pour la droite, les victoires s'enchaînent. 15 jours après le retour de Berlusconi au pouvoir, un membre de sa coalition, Gianni Alemano, gagne la mairie de Rome. La gauche italienne est laminée. Pour la première fois depuis la chute du régime fasciste en 1943, elle perd la capitale. Et des saluts fascistes accueillent le nouveau maire.
Rome change et je veux changer avec Rome. Je suis contente car finalement, je pense que quand un clandestin se fera arrêter en ville, il sera expulsé.
En surfant sur la haine des immigrés, Gianni Alemano a gagné avec 53% des voix.
Nous allons apporter un changement profond en commençant par la sécurité. La sécurité, le travail et le social seront mes 3 mots d'ordre pour commencer à administrer cette ville.
Gianni Alemano, maire de Rome. Il a été ministre de l'agriculture de Berlusconi. Ancien secrétaire national des jeunesses du MSI, le parti néofasciste aujourd'hui dissous. Alemano a été arrêté à plusieurs reprises pour violence de rue, sans jamais être condamné. Pour bien comprendre le personnage, il faut s'intéresser à son entourage. Pendant les années de plomb, l'Italie était en proie à une véritable guerre civile entre terroristes d'extrême droite et d'extrême gauche. En 20 ans, plus de 2000 blessés et 380 morts. Au sommet de cette violence, l'attentat de la gare de Bologne. Le 2 août 1980, l'extrême droite italienne réalise l'une des plus importantes attaques terroristes que l'Europe ait connues. 85 morts et plus de 200 blessés. À cette époque, Gianni Alemano était proche des fascistes violents. Il admirait Pepe Dimitri, une des figures phares des années de plomb, un leader de l'extrême droite radicale. Plus tard, Dimitri deviendra son conseiller personnel. En 2006, il se tue dans un accident de voiture. Ses funérailles sont l'occasion de retrouvailles pour toute la droite fasciste qui lui rend hommage. En première ligne, en train de porter le cercueil, Gianni Alemano, l'actuel maire de Rome. Cette photo, prise par un ami du défunt, n'avait jamais été diffusée. Devant lui, Gabriele Adinolfi, l'intellectuel des fascistes romains condamné pour appartenance à un groupe terroriste, de retour en Italie après 18 ans d'exil en France. Rome, une station de métro désaffectée. Derrière ces grilles, des militants d'extrême droite se donnent régulièrement rendez-vous. Pour la première fois, ils acceptent de laisser rentrer une caméra. Ici, la jeunesse fasciste la plus militante se retrouve pour organiser l'avenir autour d'activités culturelles et de conférences. Aujourd'hui, leur invité d'honneur, Gabriele Adinolfi, l'ancien terroriste et intellectuel du fascisme.
Grâce au ciel ou à qui vous voulez, le fascisme est en transformation permanente. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule façon d'être fasciste, c'est celle d'être pragmatique. Arrêtons de croire à toutes les conneries qu'on nous raconte. Arrêtons de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Soyons les supporters de notre propre avenir et construisons cet avenir sur la base de notre passé.
Gabriele Adinolfi, écrivain révisionniste, cofondateur de Terza Posizione, une organisation militariste ultra-radicale. Condamné pour association subversive et appartenance à un groupe terroriste, exilé en France pendant 18 ans. Pour assister à la conférence du maître, au milieu du nid de fascistes, un homme en chemise blanche. Stefano Cortini, ancien collaborateur du maire de Rome, qu'il verrait bien assis à ses côtés.
Gianni Alemano aurait plaisir à être ici. Malheureusement, pour le moment, sa fonction l'en empêche. Mais j'en suis sûr, il serait très content d'être ici.
Dans ce squat d'un autre monde, les militants de Casa Pound travaillent pour remettre au goût du jour la culture et la société fasciste. Un idéal qu'Adinolfi n'a jamais abandonné.
Le fascisme correspond avant tout à l'esprit profond de l'Italie. De plus, aujourd'hui, il offre des propositions et des réponses très en phase avec l'actualité. Bien mieux que ne peuvent le faire les autres systèmes politiques. Je vous donne un exemple. Ces jeunes ont fait une proposition de loi qui permettrait à chaque famille italienne de posséder une maison grâce à une forme de crédit social.
À travers des propositions de loi ou des activités diverses, les jeunes de Casa Pound veulent diffuser leur message dans toute la société italienne. Pour Gianluca Iannone, le chef du mouvement, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de toucher la jeunesse, ce qu'ils font à travers leur section lycéenne, le Blocco Studentesco.
Le Blocco Studentesco a pris 37 000 voix l'an dernier dans les écoles de Rome et alentour, soit 25% des votes des élèves. Il est évident que nous sommes en pleine expansion, car on dit tout haut ce que plus personne n'ose dire.
Il est 8 h du matin devant le Visconti, un des plus grands lycées de Rome. Les jeunes du Blocco Studentesco distribuent des tracts, comme ils le font chaque matin, devant une dizaine d'écoles.
Militer, ça me prend 24 heures sur 24. C'est toute ma vie. Tout le reste vient après.
Et toi, tu te sens fasciste ?
Oui, je suis fasciste.
Des fascistes qui tractent en pleine ville et dans l'indifférence générale. Ça ne te choque pas de voir des fascistes devant ton école ?
Non, absolument pas.
Et les idées qu'ils véhiculent te gênent ?
Non, je ne partage pas pleinement leurs idées, mais elles ne me répugnent pas non plus.
C'est une tradition ici. Il n'y a vraiment aucun problème.
Ugo Maria Tassinari, spécialiste de l'extrême droite, nous explique pourquoi, depuis le retour de Berlusconi au pouvoir, ces militants peuvent tracter en toute liberté.
Le précédent gouvernement Berlusconi, en 2004, avec son ministre de la Justice, a dépénalisé le délit d'opinion. À chaque fois que tu fais l'apologie du fascisme, ou que tu l'exaltes, mais sans aucun comportement violent, cela ne constitue plus un délit. Et ceci a permis à des dizaines de militants d'éviter des procès, des dépenses d'avocats, des condamnations.
Pour éviter les procès, la violence, ils tentent de la réserver à leur concert. La chanson qui cartonne en ce moment, Chica Mantanza, littéralement, fouette avec ta ceinture. Ces jeunes militants qui, en dehors des concerts, se donnent l'apparence de la normalité, nous en avons rencontré un. Il a accepté de nous recevoir chez lui. Martín Navarro a 28 ans. Il milite depuis qu'il a 13 ans.
Voici la photo de Mussolini. Et ça, c'est le drapeau de la République fasciste de Salo. Et voici l'obélisque du Duce que m'ont offert des amis pour mes 18 ans. Je suis très lié affectivement à la figure de Benito Mussolini. Pour moi, ça a été quelqu'un d'une loyauté et d'un honneur exemplaire. Une personne qui a fait du bien à sa patrie et à son peuple.
Martín est chef de section pour Forza Nuova, un mouvement néofasciste né en 97. La famille, l'église et la patrie sont les mots-clés de ces militants qui voudraient entre autres interdire l'avortement, l'homosexualité et l'immigration. Ce soir, réunion en pleine campagne aux portes de Rome organisée par leur leader Roberto Fiore, il est aujourd'hui député européen.
En 1989, le mur du communisme est tombé. Aujourd'hui, en 2008, c'est la chute du mur du capitalisme.
Roberto Fiore, député européen. Cofondateur du mouvement d'extrême droite Terza Posizione, il a été condamné à 9 ans de prison pour association subversive et bande armée. Pour y échapper, il s'est enfui 20 ans à Londres et n'est rentré en Italie qu'à la prescription de sa condamnation.
Nous nous rappellerons de ce moment comme celui de la plus grande bataille menée tous les jours pour sauver l'Italie et l'Europe. Vive l'Italie, vive Forza Nuova.
Viva l'Italia, viva Forza Nuova.
Libero, Bulgaro, le chef a chauffé les esprits un peu partout, des bras se lèvent. Au moment où le parti essaye de devenir fréquentable, la caméra gêne. Martín, leur leader, donne l'ordre d'arrêter. Pourtant, il y a 2 ans, Fiore n'était pas encore député européen, et à cette époque, Martín et ses amis pouvaient montrer leur vrai visage. Cette chanson culte de l'extrême droite italienne a été écrite par Marcello De Angelis. Il est aujourd'hui député au Parlement dans la coalition de Berlusconi. C'est un ami personnel et toujours très proche du maire de Rome.
Cette chanson était l'expression de mes états d'âme et de mes sentiments. Je ne vois absolument aucune rupture entre ce que je suis maintenant et ce que j'ai été il y a 10, 20, 30 ou 40 ans.
Marcello De Angelis, député italien. Ancien membre du mouvement d'extrême droite Terza Posizione, il a été condamné à 5 ans et 6 mois de réclusion criminelle pour association subversive et bande armée. Il s'est enfui pendant 9 ans à Londres avant de décider de rentrer en Italie pour purger sa peine.
Je n'ai absolument rien à renier. Malheureusement, mon expérience personnelle, je l'ai seulement subie.
J'ai subi des violences morales, des violences physiques, des morts dans ma famille, des attentats. Je remercie Dieu de m'avoir préservé et de m'avoir permis d'arriver jusqu'ici. Et surtout, je remercie mon peuple et ma nation qui, malgré les pressions, ont fini par rétablir qui était la victime et qui était le bourreau, même si c'est avec 30 ans de retard.
Marcello De Angelis, Roberto Fiore, Gabriele Adinolfi. Trois anciens amis, trois anciens membres d'un des mouvements fascistes les plus radicaux de l'après-guerre. Tous condamnés. Aujourd'hui proches du pouvoir, ils sont ou ont tous été liés au maire de Rome. Grâce à leur position actuelle, ces hommes peuvent inviter à leur meeting des personnalités politiques de premier plan. Roberto Fiore reçoit cette année Gerhard Kurzmann, un député du FPE, l'extrême droite autrichienne qui, aux dernières élections législatives, a déstabilisé le centre droit en remportant 18% des voix.
Il existe maintenant des formations de droite dans presque toute l'Europe. Et nous devons, à l'image des autres grandes formations politiques européennes, nous retrouver par-delà les frontières pour travailler ensemble. C'est pour cela que je suis ici, pour encourager nos amis italiens à poursuivre la politique juste dans laquelle ils se sont engagés.
La victoire du FPE nous fait penser qu'il y aura sûrement un jour où les Européens, les Italiens se tourneront vers les forces véritablement nationales et sociales traditionnelles qui sont les seules à pouvoir représenter l'avenir et l'espoir de l'Europe.
Parmi ces liens européens, Roberto Fiore n'a jamais caché son admiration pour le NPD, le parti de l'extrême droite allemande. Sur ses archives, on le voit aux côtés de leur chef, Udo Voigt. Le NPD, le parti qui a permis aux néo-nazis de se réinstaller au cœur de la société allemande. En Allemagne, depuis 5 ans, le NPD gagne des mairies et a fait élire des députés dans deux parlements régionaux. À 2 heures de Berlin, dans le somptueux château de Schwerin, se trouve le parlement régional. Derrière ces murs, le NPD compte 7 députés. Nous avons rendez-vous avec le président de leur groupe parlementaire et numéro 2 du parti, Udo Pastor. Arrivé dans son bureau, au mur, un emblème qui rappelle la croix gammée. La coupe de cheveux du secrétaire évoque de vieux souvenirs et sur la tranche de sa main droite, le mot « vérité ». Un tatouage qui marque son appartenance au plus ultra parmi les néo-nazis convaincus. Udo Pastor nous a reçus pendant 2 heures dans son bureau pour nous exposer sa vision du monde. Le politicien est habile, il évite les dérapages trop violents, l'écume de l'antisémitisme et les références trop directes à Hitler. Mais en 2009, dans un parlement allemand, il n'hésite plus à tenir des propos ouvertement racistes.
Nous aurions moins de guerres et moins de problèmes en Europe si les gens ne se mélangeaient plus. Nous devons donc aller vers la ségrégation et non pas vers l'intégration des peuples. Nos dirigeants sont en train d'effacer le déterminisme racial naturel qui nous définit. Il y a une volonté idéologique d'abolir les lois naturelles qui nous déterminent. Nous répéter qu'il n'y a pas de différence entre les hommes, que nous sommes tous les mêmes, c'est du lavage de cerveau, du totalitarisme. Mon parti et moi, nous disons clairement, le mélange des races, c'est le génocide des peuples.
Aujourd'hui, pour répandre ses thèses, le NPD s'est mis à la recherche de propriétés à acheter un peu partout en Allemagne. Nous en avons retrouvé une dans la banlieue de Berlin. Un lieu désaffecté, barricadé et totalement isolé. 3 bâtiments pouvant accueillir des centaines de personnes que le NPD veut acheter pour en faire un centre de formation. Et même s'ils ne sont pas encore propriétaires des lieux, en arrivant derrière le dernier bâtiment, nous découvrons qu'ils l'occupent déjà. À l'abri des regards, une place de garde avec son mât, son foyer et un symbole de la mythologie germanique planté sur un bûcher. Nous avons montré ces images à Uli Jentsch, responsable des archives sur l'extrême droite allemande. Pour lui, cela ne fait aucun doute. Ce symbole est la marque des mouvements pour la résurrection du nazisme.
Il y a une jeunesse allemande qui fait exactement ce que l'on sait des jeunesses hitlériennes. Ils ont entre 7 et 19 ans, ils vivent de manière passéiste avec des valeurs qui sont celles du Troisième Reich. Ils sont très engagés politiquement. Des témoins ont rapporté qu'ils organisent des camps qui ressemblent à des camps scouts romantiques, mais qui sont en réalité très militarisés. Il y a même des formations au maniement des armes.
L'homme responsable de l'achat de ces maisons siège lui aussi au château de Schwerin. Andreas Mollau est un des porte-paroles du NPD.
Ces maisons, nous appelons cela des zones nationales libérées, d'où doit partir un nouvel élan pour la politique et la culture. Car nous devons aussi développer des lieux d'échange avec nos amis du reste de l'Europe afin de montrer qui nous sommes et de donner une nouvelle impulsion à la politique. Nous devons donc construire une société parallèle. En tant que nationaliste de droite, les valeurs de la société actuelle ne sont pas les miennes, et ce dans tous les domaines, en histoire, mais aussi en sociologie, bien sûr en politique. Pour pallier à cela, des jeunes nationalistes doivent recevoir une formation alternative. Nous allons donc créer des écoles pour les préparer à prendre des responsabilités politiques et à transmettre nos valeurs dans toute la société. Voilà ce que nous avons l'intention de faire dans ces maisons.
Et le NPD a déjà acheté certaines maisons, dont cette propriété de la campagne berlinoise. Un corps de ferme composé de 5 bâtiments, 3 étables et 20 hectares de terrain. Le tout destiné à devenir une auberge avec discothèque, salle de concert et bien sûr salle de conférence. La situation inquiète au plus haut niveau. Au Parlement de Berlin, une commission vient de se créer pour surveiller les activités de l'extrême droite sous l'égide du ministère de l'Intérieur et des services secrets. Une étude, publiée récemment par l'université de Leipzig, montre que 15,4% des Allemands pensent qu'un Führer dirigeant le pays avec fermeté serait dans l'intérêt de tous.
L'extrême droite est une de nos principales priorités. Nous la plaçons juste derrière le terrorisme islamique. L'État que le NPD veut établir est un État incompatible avec la démocratie. Un État qui se construit contre l'étranger. Ils veulent renvoyer les immigrés qui sont nés et qui ont grandi ici. Ils veulent la ségrégation à l'école dès la maternelle. Ils se reposent sur une idéologie raciste et antisémite.
À l'autre bout du pays, à Cologne, toute l'extrême droite européenne s'est donné rendez-vous pour un grand meeting anti-islam. Plus de 1000 personnes sont attendues. Les habitants de Cologne sont révoltés.
Nazis raus ! Nazis raus ! Nazis raus !
Toute la ville se mobilise, près de 20 000 personnes se réunissent pour dire non aux fachos. Partout, les militants d'extrême droite sont bloqués et repoussés violemment. Les leaders de l'Europe extrémiste, eux, se retrouvent coincés sur un bateau, encadrés par la police. Ils tentent d'échapper aux attaques des antifascistes. Au bout de 4 heures, tout le monde débarque. En première ligne, Robert Spieler, français, ancien Front National, fondateur de la Nouvelle Droite Populaire. À ses côtés, Harald Wilimski, FPE, l'extrême droite autrichienne, ou encore Philippe de Winter, belge, leader du Vlaams Belang, l'extrême droite flamande.
Ce qui se passe ici est incroyable. Je croyais qu'en Allemagne, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait plus de dictature, mais c'est faux. Ils ont remplacé une dictature de droite par une dictature de gauche, politiquement correcte. Il n'y a plus de liberté de pensée ici. Il n'y a plus de démocratie. Nous ne sommes pas des extrémistes. Nous sommes des conservateurs qui, en Autriche, en Italie ou en Allemagne, ont des élus qui représentent à travers toute l'Europe 15 à 20% de nos concitoyens.
En tant que député européen, Mario Borghezio est le seul à bénéficier d'une escorte policière. Il croit rejoindre ses camarades, mais arrivé sur la place, Borghezio se retrouve face à quelques journalistes et une poignée de militants qui ont réussi à passer. Les autres sont restés bloqués. Aucun chauffeur de bus ni de taxi n'a accepté de les transporter.
C'est l'Europe de la liberté ici. C'est l'Europe qui n'a pas peur de l'islam, du terrorisme islamique. C'est l'Europe qui veut combattre et défendre nos valeurs et notre liberté.
À quelques mètres de là, les opposants par milliers acclament le maire de Cologne, Fritz Schramma.
Ce congrès, mesdames et messieurs, est en réalité une immonde manœuvre politicienne qui se joue sur le dos de nos concitoyens étrangers.
Monsieur le maire, en première ligne sur la lutte antifasciste, se devait de réagir. Dans sa municipalité, l'extrême droite a déjà 6 élus.
Ces hommes en chemise brune sont des incendiaires, des racistes déguisés en bourgeois qui instrumentalisent la peur de l'autre pour exister politiquement. Mais le brun, ça se jette dans les toilettes. Voici la sortie. Rentrez chez vous, on ne veut pas de vous ici.
Autre ambiance de l'autre côté du cordon de police. Borghezio, toujours aussi seul, tente d'entretenir l'espoir.
Je suis orgueilleux de représenter la Ligue du Nord pour l'indépendance de la Padanie. Un mouvement qui organise chaque semaine, partout où cela est nécessaire, des manifestations contre les mosquées islamistes et contre le totalitarisme islamique. Et je dédie cette intervention à la mémoire d'une...
Le micro est coupé. Borghezio croit à une panne de courant. En réalité, la police vient d'interdire la manifestation. Le risque de troubles à l'ordre public est évoqué. Ce jour-là, à Cologne, les antifascistes ont gagné. Budapest, le 25 octobre 2008.
Messieurs les chefs de section, il faut que vos sections essayent d'avancer au rythme des tambours. Dès que vous arriverez sur la place, vous devrez tous marcher en cadence. Pied gauche, boum, pied gauche. C'est clair ? Allez, on y va.
Ces hommes font partie de la Magyar Garda. La garde hongroise, une milice d'extrême droite créée en 2007 par le Parti nationaliste. Son but, défendre une Hongrie qui, selon elle, serait au bord du gouffre et renverser le gouvernement socialiste responsable de cet abîme. Aujourd'hui, la garda s'apprête à défiler au cœur de la capitale pour introniser 400 nouveaux membres.
Je tremble de la tête aux pieds. Vous savez, j'intègre la garde hongroise aujourd'hui. Et c'est le dernier espoir de la Hongrie.
La jeune recrue qui nous parle ne connaît pas encore les règles.
Tu n'as pas le droit de leur parler.
Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur que vos gardes disent des choses embarrassantes?
Oui, vous pouvez dire ça comme ça.
Et parmi les choses embarrassantes qu'ils pourraient dire, vous avez peur qu'ils dévoilent le caractère fasciste de votre milice?
Peut-être. Mais moi, je n'ai rien à me reprocher.
Lendash!
Le costume et le drapeau à bandes rouges et blanches rappellent celui des milices pro-nazis, des croix fléchées, qui ont dominé la Hongrie en 1944. Ce drapeau, banni depuis la fin de la guerre, refait son apparition un peu partout. Ils sont plus de 1000 à débarquer sur la place des héros de la nation, la place la plus importante de Budapest, sous les applaudissements du public et sans un cri de protestation. Dans un silence religieux, leur chef Gábor Vona les accueille.
Recommencer à croire, recommencer à espérer, retrouver le bonheur et retrouver notre fierté. Tout cela, c'est grâce à vous, la garde, que l'on y arrivera. Vous êtes les derniers rayons d'espoir de la nation hongroise. Qui voudrait vivre dans un pays qui se nomme Hongrie, mais qui est entièrement aux mains des étrangers? Qui voudrait vivre dans un pays où des Shimon Peres mettent leur nez dans toutes nos affaires?
Ce salut qui envahit la place est le salut traditionnel des nationalistes radicaux.
Bien.
L'extrême droite hongroise est remontée, alors qu'avant la crise financière, le taux de chômage proche de 7% était en baisse et que l'immigration y est la plus faible d'Europe. Alors comment la Hongrie, ce bon élève de l'Union européenne, a-t-elle pu en arriver là ? Sociologue de premier plan, Maria Vassarelli suit depuis plus de 10 ans les dérives extrémistes de son pays.
Le plus grand problème en Hongrie, c'est que l'extrême droite est fortement soutenue par l'élite politique et plus particulièrement par le plus grand parti de la droite traditionnelle, le Fidesz. Ce soutien du Fidesz et de son patron Viktor Orbán, même s'il n'est pas direct, n'en reste pas moins évident. Le Fidesz a intérêt à ce que l'extrême droite existe et soit visible auprès de la population.
Ancien Premier ministre de 1998 à 2002, Viktor Orbán dirige le Fidesz, le parti du centre-droit. En 2002, après 4 ans à la tête du pays, il perd face à la gauche. Orbán et son parti décident alors de radicaliser leur discours et de s'appuyer sur l'extrême droite pour retrouver le pouvoir. Une première depuis la fin de la guerre. Ancien conseiller personnel et biographe de Viktor Orbán, Josef Debrecheny s'est retiré de la vie politique avant la dérive ultra-populiste du Fidesz. D'ordinaire discret, il accepte pour nous de juger son ancien patron.
Le Fidesz est très tactique, très rusé dans sa manière de surfer sur ses relations avec l'extrême droite. Son discours est toujours très tendancieux. La force d'Orbán, c'est d'avoir modernisé les thèmes de l'extrême droite, de les avoir rendus plus efficaces. Il a su exploiter les idées nauséeuses qui restaient enfouies dans ce pays depuis la fin de la guerre.
23 octobre 2006, jour de fête nationale. Orbán réclame la démission du gouvernement. Avec l'aide de l'extrême droite, il fait descendre près de 200 000 personnes dans la rue. Très vite, les esprits se chauffent et la manifestation dérape dans une violence extrême. Les émeutes mettent à mal le gouvernement et Orbán remonte dans les sondages. Il comprend qu'il tient un bon créneau. Un an plus tard, le 23 octobre 2007, le même scénario se répète et la ville s'enflamme à nouveau. 23 octobre 2008, l'extrême droite est à nouveau dans les rues de Budapest. Cette année encore, la tension est vive. À chaque coin de rue, la police fouille les manifestants. Dans la foule, nous croisons des militants de groupuscules radicaux flamands et français qui sont venus soutenir les extrémistes locaux. Sacha s'est mis en tenue de soirée, une sorte d'hommage à la garde hongroise.
D'un point de vue historique, ce qui se passe ici est juste phénoménal. J'espère qu'en Flandre, et aussi en France, nous pourrons avoir à nouveau de pareilles milices. Mais pour le moment, les lois nous en empêchent, ce qui est une honte.
Sacha vient de finir des études d'histoire. Il se prépare à devenir prof en Belgique. Autour de lui, des skins et autres militants extrémistes. Il est 23h, la baston n'a pas encore débuté et nos jeunes loups commencent à avoir faim. Quand on est nationaliste, cela peut parfois poser un problème.
Le pita ennemi, c'est plus grand que le McDonald's ennemi.
Non, le McDonald's,
attends. Grand débat du soir, quel est le plus grand ennemi ? Est-ce que c'est le kebab ou le McDonald's ? Ces messieurs voilà. Vont manger un McDonald's parce qu'ils n'aiment pas le kebab. Je désapprouve totalement. Je préfère beaucoup bien...
On n'a rien contre le kebab, hein. On a quelque chose contre les Turcs, c'est tout.
Eh bien, vous avez bien tort, moi j'aime bien les Turcs. Pas dans l'Union Européenne, mais j'aime bien les Turcs.
Vous préférez les
Juifs ? Non, je ne mange pas des Juifs non plus.
Pas de sandwich pour nos fachos, mais surtout pas de bagarre. Cette année, pas la moindre effusion dans les rues de la capitale. Hasard ou coïncidence, le Fidesz avait décidé pour la première fois de ne pas participer aux manifestations. Après s'être appuyé sur l'extrême droite pour revenir sur le devant de la scène, le Fidesz, désormais certain de diriger le pays dès 2010, a décidé de prendre du recul avec les chemises noires. Mais le mal est fait. Même si l'extrême droite radicale ne totalise que 1 à 2% des voix lors des élections, la garde, milice fasciste en uniforme, fait désormais partie du paysage. Dans la société hongroise, les idées de l'extrême droite sont devenues acceptables. Tordás, un petit village à une quarantaine de kilomètres au sud de Budapest. Depuis la rentrée de septembre, le nouveau directeur de la seule école primaire de la région affiche ses sympathies pour le nazisme. En 2005, Peter Koscheras a mis le feu aux poudres en diffusant une photo de lui en uniforme SS. Une photo prise lors d'une sortie scolaire. Prof d'histoire dans un lycée privé, à l'époque il avait dû démissionner. 3 ans plus tard, il est nommé directeur d'un établissement public. Devant l'école, le premier geste du nouveau directeur, la mise en place du Touroul, emblème des nationalistes hongrois. Koscheras apprécie peu la présence de notre caméra, mais après une longue négociation, il finit par accepter de nous parler de la photo.
On a voulu organiser un musée interactif pour illustrer une page de notre histoire. On voulait faire en sorte que les enfants puissent toucher les vrais uniformes de l'époque, mieux que dans les musées où ils ne peuvent pas accéder aux objets. Vous savez, pendant la guerre, la Hongrie s'est battue aux côtés de l'Allemagne nazie. Et nous avons perdu cette guerre. Aujourd'hui, on s'en fiche de savoir quelle nation était de quel côté dans les combats. Mais sur le plan moral, il est grand temps d'admettre que les vainqueurs ont autant de choses à se reprocher que les perdants.
Roosevelt autant coupable qu'Hitler, désormais à tort d'âge, les enfants sont encadrés par un directeur révisionniste. Sylvia, mère d'une élève de l'école, n'en revient toujours pas.
Depuis l'arrivée de ce monsieur Koscheras dans l'école, ils ont mis en place des cours de danse folklorique, l'apprentissage d'instruments traditionnels hongrois et des chants nationaux. À la dernière réunion, ils ont essayé de nous convaincre que les cours de sitar étaient plus utiles que les cours de langue ou d'informatique. Ça a été le coup de trop. On a retiré notre fille de l'école.
Pour le moment, 4 enfants ont été retirés de l'école. Relooké, populiste ou franchement fasciste, l'extrême droite s'est refait une santé dans toute l'Europe. Depuis la fin de la guerre, ses idées n'ont jamais été aussi présentes dans la société. Aujourd'hui, elle fait partie des majorités au pouvoir dans 5 pays et elle est à son plus haut niveau électoral dans 18 pays d'Europe.
L'hégémonie culturelle de la gauche qui a duré de 1945 à 1989 est terminée.
Indoctrination nationaliste.
Le consensus d'après-guerre, partagé par des gaullistes et par des communistes, les chrétiens démocrates et les socialistes, par tout le monde, est fini.
Rassenmischung ist Völkermord.
Alors les tabous sont brisés et pour toujours.
Petit à petit, sans que l'on s'en aperçoive, l'Europe fasciste gagne partout du terrain et se prépare un avenir radieux.
Ouais, ça fait rêver. Je le dis franchement, ouais, j'aimerais bien qu'on ait la même chose en France.